France Inter.
C'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Thomas et bonjour à tous. À la une de ce 13h. Sébastien Lecornu sur le terrain depuis ce matin. Le nouveau Premier ministre est à Mâcon sur le thème de l'accès aux soins. Il promet d'ailleurs un réseau France Santé pour une offre de soins à moins de 30 minutes de chez soi. L'agence Fitch officialise l'incertitude politique et économique de la France. Avec quelles conséquences? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, l'économiste Lucille Bambaron. Grand rassemblement de l'extrême droite en ce moment dans les rues de Londres à l'appel de Tommy Robinson, figure de proue des mouvements anti-immigration à Londres. Nous serons en direct tout dans un instant. Et puis en fin de journal, nous ferons un peu mieux connaissance avec les chauves-souris souvent mal aimées. Eh bien, nous verrons à quel point nous avons tort. Le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec un ciel bien agité cet après-midi.
Oui, nuageux avec des averses fréquentes et parfois orageuses sur le nord du pays et le quart sud-est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
C'est donc son premier déplacement en tant que Premier ministre. 4 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu vient aujourd'hui au contact des Français à Mâcon sur le thème de la santé dans ce département de Saône-et-Loire qui vit douloureusement le manque de soignants. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour Eric.
Vous êtes en direct de Mâcon où vous suivez donc ce déplacement très cadré du Premier ministre. Visite même sous haute surveillance.
Oui, Sébastien Lecornu traîne ce matin son nouveau costume. Le Premier ministre distribue même les bises aux élus locaux qu'il appelle par leur prénom. Sébastien Lecornu effectue donc son premier déplacement. Le nouveau locataire de Matignon veut mettre en scène la rupture qu'il promet un contact direct avec les Français. Pas de micro, pas de caméra pour la visite de ce centre de santé. Sébastien Lecornu se réserve aussi de premières annonces. Sanctuariser les dépenses de santé dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Quand la gauche attend des signes et des actes, il dévoile aussi, écoutez son idée, l'ouverture d'un réseau 5000 maisons France Santé sur le modèle des maisons France Service.
Merci Paul Barcelone en direct de Mâcon avec Virginie Lorda. Eh bien, quand il n'est pas sur le terrain, Sébastien Lecornu prépare à Matignon son futur gouvernement avec des consultations autour des choix budgétaires qui détermineront donc la future équipe gouvernementale. Pour l'instant, faute de gouvernement et de trajectoire budgétaire, la France est passée la nuit dernière de l'instabilité politique à l'incertitude économique officialisée par l'agence Fitch qui a rétrogradé la note souveraine de la France en A+, un seul A donc, alors que nous en avions deux, sachant que le Graal est d'avoir un triple A. Écoutez ces deux réactions politiques, pour commencer celle de l'insoumis Éric Coquerel, président de la Commission des Finances et du Contrôle Budgétaire. Pour lui, cette dégradation est le résultat de 2 mois de propos alarmistes.
À force de faire du catastrophisme et de crier au loup, comme l'a fait François Bayrou avec plusieurs de ses ministres pour essayer de faire passer son budget et éviter la censure, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire on finit par inquiéter les agences de notation et peut-être derrière les marchés, ça c'est à vérifier. Je pense réellement que menacer la France d'arriver du FMI, nous comparer à la Grèce, etc., a été vraiment totalement irresponsable et c'est principalement ça qu'on paye. J'espère que ça servira de leçon à Sébastien Lecornu pour qu'il n'ait pas le même discours.
Commentaire d'Éric Coquerel. Quant au ministre démissionnaire à Bercy, Éric Lombard, il prend laconiquement acte de la dégradation de la note de la France. Une autre réaction à droite, celle du vice-président LR de cette commission des finances, Jean-Didier Berger.
La France insoumise en particulier porte une responsabilité toute particulière parce que depuis le début, elle veut semer le chaos main dans la main avec le Rassemblement national pour renverser les institutions, déposer des motions de destitution du président de la République et créer en somme une forme d'incertitude qui évidemment est en économie, en finance, toujours très défavorable à notre pays. Et c'est la raison pour laquelle on voit qu'il est urgent de sortir de cette instabilité politique et de prendre les mesures qui s'imposent pour sortir du cercle vicieux dans lequel la France est engagée.
Voilà, à propos de Jean-Didier Berger et avant lui Éric Coquerel, tous les deux joints par Anne Rose Veil. Dégradation donc de la note souveraine de la France, avec quelles conséquences? Eh bien, on en parle avec notre invité. Bonjour Lucille Bambaron.
Bonjour Eric, ravi d'être avec vous ce midi.
Mais merci, bienvenue. Vous êtes économiste au cabinet Asterès. Alors, les marchés, eux, ils n'ont pas attendu la note de l'agence Fitch pour se positionner. Il y a belle lurette que les investisseurs ont anticipé le manque de trajectoire de la France. Expliquez-nous alors à quoi servent aujourd'hui ces agences de notation ?
Alors oui, comme vous l'avez très bien dit, en fait, ces dégradations, elles étaient déjà bien anticipées par les marchés financiers. C'est comme si, en fait, ils avaient aujourd'hui un train d'avance sur les agences de notation. En fait, ce qui intéresse aujourd'hui les investisseurs, c'est les taux d'intérêt. Et les taux souverains à 10 ans, hein, notamment les taux d'intérêt auxquels se finance la France, ils avaient déjà entamé une tendance haussière. Hein, et ça fait quelques semaines qu'on aperçoit ce mouvement. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs, aujourd'hui, ils demandent en fait un rendement supérieur pour contrebalancer le risque qu'ils prennent en investissant dans cette dette souveraine. Et en fait, la décision de Fitch aujourd'hui, la décision qu'elle a prise hier est quand même une décision justifiée quand on regarde en fait les nombreuses difficultés politiques et les déséquilibres économiques auxquels fait face la France. Alors les agences, elles prennent un peu plus de temps avant de donner leur décision parce qu'elles peuvent peut-être être un peu frileuses sur ce qu'elles peuvent provoquer sur les marchés financiers. Mais donc aujourd'hui, Fitch s'aligne quand même avec ce que pensait le marché depuis un moment.
Il ne faut donc pas s'attendre à une prochaine flambée des taux. Mais quelles seront précisément les conséquences de cette dégradation de la note souveraine française ?
Alors oui, lundi, donc à l'ouverture des marchés financiers, on pourrait peut-être avoir un léger sursaut des taux obligataires, mais je pense que ce sursaut-là va rapidement se dissiper dans la journée, puisque, comme on l'a dit auparavant, les marchés avaient déjà anticipé cette dégradation, et ça se reflète en fait par des taux d'intérêt aujourd'hui plus élevés. Après, les conséquences concrètes des taux d'intérêt plus élevés, c'est donc que la France, en fait, on va avoir une charge de la dette qui va s'alourdir, et donc ça va venir en fait alourdir encore plus un déficit public, et donc continuer à alimenter une dette publique déjà très grande.
Et sur les raisons, sur ce qui a motivé cette dégradation, ce sont bien les incertitudes politiques de la France, son manque de trajectoire, bien plus que des raisons strictement économiques.
Oui, tout à fait. C'est le fait qu'on n'ait pas une trajectoire claire des finances publiques qui, en fait, inquiète les agences de notation et qui, donc, ont contribué à la dégradation de Fitch. Après, on a quand même, une croissance économique, bien qu'elle est en amélioration depuis le début de l'année, qui reste, en fait, sans véritable moteur. On a eu un plus 0,3% au T2 2025, mais qui s'explique surtout par des effets de stock. On a vraiment un manque de moteur pour la croissance économique et c'est ce qui inquiète également les agences de notation.
En France, nos banques restent tout de même solvables. Il faut se méfier des comparaisons avec les pays du sud de l'Europe qui ont parfois été sévèrement, eux, sanctionnés par les agences de notation.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques françaises restent quand même très solvables. Et puis, on a quand même, la France, elle bénéficie quand même d'une certaine notoriété du fait qu'elle est la deuxième puissance économique de la zone euro. Donc, les investisseurs ont quand même encore bien confiance dans la dette française. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs la semaine dernière où l'agence France Trésor a quand même réussi à lever 11 milliards d'euros d'obligations. Donc, on a quand même une confiance encore sur les marchés et les banques ne sont pas très exposées à ce changement de notation. En revanche, les taux obligataires sont donc repartis à la hausse et on pourrait être amené à avoir des arbitrages au rendement risque qui vont être plus favorables à d'autres pays, notamment je pense à l'Allemagne ou même le Portugal ou l'Espagne qui ont aujourd'hui du coup la même note, ils sont dans la même catégorie de notation que nous, donc on pourrait faire face à des mouvements de capitaux suite à cette dégradation.
Eh bien on regardera ça avec attention. Merci beaucoup d'être venu éclairer nos lanternes, Lucille Bambaron, économiste au cabinet Asterès. Je vous parlais tout à l'heure de Sébastien Lecornu qui consulte tous azimuts donc pour préparer son futur gouvernement et arrêter donc les prochains choix budgétaires de la France, eh bien il y en a un ce matin qui lui a rappelé qu'il attendait une vraie rupture, c'est-à-dire faire payer les riches, sinon il y aura censure, sous-entend-il. Le communiste Fabien Roussel, qui s'en est pris également au président Macron ce matin, c'était lors de son discours de rentrée à la fête de l'UMA.
Quand Emmanuel Macron a été élu pour la première fois président de la République, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes à son arrivée était de 600 milliards d'euros. Aujourd'hui, 8 ans après, il est de plus de 1200 milliards d'euros. Ils ont multiplié par 2 leur patrimoine. C'est tout simplement et purement un braquage des finances publiques de nos poches vers leurs poches. Cet argent, c'est celui de notre travail, c'est celui de nos richesses, c'est celui de nos impôts. Je leur dis une chose, rendez-le-nous. Ce qui bloque le pays aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les salariés, ce ne sont pas les grévistes. Le bloqueur en chef, c'est le président de la République, c'est lui l'ingénieur du chaos. Et nous lui demandons avec force qu'il quitte, qu'il arrête, qu'il lâche prise et qu'il laisse enfin la place à une autre politique en France. Place au peuple, à nous de prendre le pouvoir.
Le secrétaire national du Parti communiste ce matin, discours de rentrée à la fête de l'UMA avec Laurence Perron.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Depuis une heure, dans les rues de Londres, défile une manifestation de l'extrême droite et aussi une contre-manifestation dite contre le racisme et le fascisme. Il faut rappeler que depuis le début de l'été, l'Angleterre connaît une vague de protestations anti-migrants. Eh bien, ce samedi, la manifestation de l'extrême droite est présentée comme un rassemblement pour la liberté d'expression organisé par Tommy Robinson. On va en reparler dans un instant. C'est le leader des mouvements islamophobes. Gaëlle Joly, vous êtes notre correspondante à Londres. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du côté de London Bridge. 1600 policiers sont mobilisés et déjà beaucoup de monde.
Oui, une manifestation littéralement noyée sous les drapeaux britanniques et la croix de Saint-Georges aux couleurs rouge et blanche. Et effectivement, ils sont déjà des milliers et des milliers, beaucoup d'hommes, mais aussi des familles, des enfants sur les épaules, des grands-parents qui manifestent pour la première fois. On est venu défendre la liberté d'expression car on ne peut plus dire ce que l'on veut dans ce pays sans être taxé de raciste, confié tout à l'heure des manifestants. Ils sont beaucoup de supporters de Nigel Farage, un leader populiste en tête dans les sondages ici. Et ils chantent aussi le nom de Tommy Robinson, un homme qui, selon eux, ose dire la vérité. Alors, la grande marche doit prendre la direction de Westminster, hein, l'épicentre du pouvoir politique, avec la présence de personnalités comme Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, ou même Éric Zemmour, qui doit prononcer un discours. Un hommage sera rendu à l'américain Charlie Kirk. Des hélicoptères survolent sans relâche cette forêt de drapeaux. La police anglaise est sur les dents.
Gaëlle Joly, en direct de Londres. Gaëlle, vous parliez de Tommy Robinson, l'organisateur de ce rassemblement à Londres. Il est la figure sûrement la plus connue de l'extrême droite britannique islamophobe. Et bien malgré ses nombreux passages en prison, il mobilise toujours plus, il gagne en influence. La classe politique britannique est sûrement et d'ailleurs responsable de son ascension. C'est ce que pense Sima Sayada, la porte-parole de l'ONG Global Justice.
Il essaie donc de blâmer les immigrés pour tous les problèmes qui se produisent dans la société britannique, pour la crise du coût de la vie, le service de santé dégradé, la médiocrité des transports en commun. Et je sais qu'un phénomène similaire se produit en France où la crise du coût de la vie est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens votent pour l'extrême droite. Nous avons des politiciens ici, comme Starmer ou Macron, qui ne savent pas gérer cette crise économique. Des personnalités comme Tommy Robinson, qui mène cette politique haineuse, obtiennent de plus en plus de soutien parce que les gens en ont assez d'un système qui ne prend pas soin d'eux et cherche quelqu'un à blâmer. Et il est très facile de blâmer les migrants.
L'armée israélienne affirme ce matin que plus de 250 000 habitants ont déjà quitté la ville de Gaza vers d'autres secteurs de l'enclave palestinienne. C'est la conséquence de l'intensification des bombardements et autres raids israéliens ces dernières semaines. 250 000 habitants qui ont quitté Gaza, c'est-à-dire plus d'un quart de la population. En France, après le passage à tabac d'un policier de la BAC, c'était jeudi à Tourcoing, et bien voilà que les deux dernières personnes recherchées ont été arrêtées aujourd'hui. Les cinq auteurs de cette séquence très violente sont donc en garde à vue. Déjà trois mineurs de 15 à 16 ans avaient été interpellés. Voilà, à Paris, une opération de sensibilisation au drame que connaissent les familles de victimes de la route. Aujourd'hui, ça se passe au pied de la Tour Eiffel, sur le pont d'Iéna. 1330 portraits de familles endeuillées sont collés à même le sol. Une exposition signée par l'artiste photographe JR, initiée par la famille du chef étoilé Yannick Aleno. Il avait perdu son fils de 24 ans dans un accident de la route il y a 3 ans. Et les photos affichées au pont d'Iéna ne sont pas celles des victimes, mais bien celles de leurs proches. C'est une façon d'attirer l'attention sur les familles qui se sentent parfois abandonnées, sans accompagnement, que ce soit dans le deuil ou parfois dans les procès qui s'en suivent. Reportage d'Anne-Livia Tolinki.
Avec son balai imbibé de colle, Myriam déplie sa photo sur le sol en béton. Elle a perdu son fils il y a 3 ans, il avait 27 ans.
Notre fils faisait du vélo, il a été renversé par un chauffard qui était ivre et récidiviste. Il est mort sur le coup. On est là aujourd'hui parce que il faut que notre société change. Il faut être responsable. Si on est fatigué, on prend pas le volant. Si on a bu, on prend pas le volant. Ce qui nous est arrivé peut arriver à tout le monde. Les familles sont brisées. Nos enfants sont morts pour rien.
Elle pointe du doigt les centaines et les centaines de photos sous ses pieds.
Je vais la tirer vers moi.
Tu la tires un peu.
Ah, c'est bon là.
Une mosaïque de portraits en noir et blanc.
Ma photo, elle est au milieu avec le doudou de ma fille.
Florence, sa fille est morte à 17 ans, renversée par une voiture.
Juste un décès va impacter 30 personnes dans la même famille, quoi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte.
Curieux, beaucoup de passants se rapprochent, s'arrêtent. D'un coup, ils s'imaginent à la place des familles endeuillées.
Ils nous ressemblent. Tout le monde peut se retrouver dans ces portraits. Ça donne une façon de parler avec émotion de la sécurité routière et c'est comme ça qu'on touche les gens.
Est-ce que vous, après avoir vu ces visages, vous conduirez différemment ?
Oui, bien sûr. Plus lentement.
Ce soir, les 1330 portraits seront arrachés, le pont d'Iéna nettoyé au Karcher, symbole de ces histoires rangées 24 heures dans les rubriques faits divers, puis très vite oubliées.
L'an dernier, 623 jeunes de moins de 24 ans sont morts dans un accident de la route. Les internationaux de France, de gymnastique, ça se passe tout ce week-end à Paris, à l'Accor Arena. C'est une étape de la Coupe du Monde. Plus de 15 000 spectateurs, 160 gymnastes, dont Marine Boyer, ex-capitaine des Bleus, également ambassadrice de cet événement. La jeune femme revient donc à Bercy, là même où s'étaient déroulées les épreuves de Paris 2024. Des JO qui d'ailleurs ont été parfois un cauchemar pour cette équipe de France de gymnastique. Un an plus tard, Marine Boyer a pris le temps de se reconstruire. Explication avec Marion Ferrer.
De Paris 2024, Marine Boyer ne garde aucun souvenir.
Je suis tombée sur la tête, donc j'ai aucun souvenir de la compétition. Zéro souvenir. Non.
Une chute survenue à l'échauffement et qui a déstabilisé toute l'équipe. Un épisode qu'il a fallu digérer.
Je suis capitaine, donc aussi je me suis occupée des filles et ça a été très très dur. Médiatiquement aussi très très dur. Ramasser des filles à la petite cuillère, ça m'a vraiment brisé le cœur.
Comme ses coéquipières, Marine a ressenti le besoin de faire autre chose, de ne plus se consacrer entièrement à la gym. Elle qui a débuté le haut niveau à l'âge de 8 ans.
J'ai commencé à faire de la perche et en janvier, j'ai commencé à faire les entraînements un peu tous les jours. Et après, aussi la volonté de me former en tant qu'entraîneur, parce que j'avais commencé la formation en tant qu'athlète de haut niveau et c'était très compliqué.
La championne n'a pas dit son dernier mot, mais pas question de recommencer un cycle olympique.
La tête, elle peut tenir, mais le corps, voilà, j'ai eu beaucoup de traumatismes. Je suis la première gymnaste française à faire 3 Jeux Olympiques et on le comprend parce que physiquement c'est traumatisant pour les articulations et même pour le mental, il y a beaucoup de pression. Je me dis peut-être faire une dernière Coupe du Monde et je me mets pas la pression, je me laisse vivre.
Sa priorité aujourd'hui, son académie lancée avec succès cet été, un moyen de faire évoluer les mentalités, de promouvoir une autre façon de pratiquer la gymnastique si exigeante pour le corps et le mental.
Reportage de Marion Ferrer. On va s'intéresser à présent aux chauves-souris, ce mammifère volant et inoffensif. Il est à l'honneur et il sera même ce soir encore à l'honneur au GAS. C'est une commune du nord de Royan. 29e édition de la Nuit internationale de la chauve-souris organisée par la Ligue de protection des oiseaux. Des chauves-souris que l'on connaît un peu mieux lorsque l'on est équipé d'un détecteur à ultrasons. Explication dans ce reportage de Salomé Martin.
Une grande partie des bruits émis par les chauves-souris sont inaudibles pour l'oreille humaine car ils sont à des fréquences trop élevées. Le détecteur à ultrasons permet de les retranscrire.
Selon le rythme à laquelle elles vont émettre leurs cris, on va pouvoir dire « ah bah tiens, ça c'est lent, donc elles sont plutôt en déplacement ».
C'est armé de cet appareil que Virginie Barret de la LPO organise ses animations à la nuit tombée. Avec ses conseils, difficile de rater les mammifères nocturnes.
C'est très rare qu'on n'arrive pas à en apercevoir. Donc oui, généralement, on a au moins une ou deux qui tournent autour de nous et qui chassent. Malgré tout, c'est vrai que maintenant, ça fait quelques années que je fais des animations et j'ai pu voir qu'il y a eu une diminution du nombre d'individus et du nombre d'espèces que l'on est susceptible d'entendre en animation.
Menacée par la destruction de son habitat ou encore par les pesticides agricoles, la chauve-souris est pourtant essentielle dans l'écosystème. Parmi leurs refuges favoris, les combles des maisons, ne les chassez pas, il n'y a pas de crainte à avoir.
Il n'y a pas de problématique importante. Elles ne vont pas détruire les câbles électriques, elles ne vont pas détruire l'isolation, puisqu'elles ne font pas de nid. Elles utilisent l'espace, mais elles ne vont rien construire.
Et pour ceux qui auraient des jardins, n'hésitez pas à laisser des haies ou à faire pousser des arbres pour favoriser leur installation.
Salomé Martin, ici La Rochelle, le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour, c'est Linda Costa.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien, le soleil va se faire rare cet après-midi.
Oui, il y en aura quand même en Corse toute la journée, donc toute l'après-midi, ce matin, cet après-midi. On pourra avoir quelques timides éclaircies entre l'Aquitaine et le Nord-Est cet après-midi, mais elles vont rester très timides, parce que globalement, ce sont les nuages hein, qui vont gagner la partie avec un petit peu de pluie. Les averses seront plus fréquentes que ce matin sur le nord du pays, averses parfois orageuses avec du vent et de la grêle. On attend de forts cumuls de pluie sur la pointe nord, tout comme sur le quart sud-est, où là aussi les averses seront bien présentes.
Et les températures ?
Elles sont quelques degrés sous les normales de saison, 18 à 23 degrés du nord au sud. On aura quelques degrés de plus par endroit, comme à Bordeaux, 24 degrés, 25 à Perpignan ou 26 à Nice. Et les maximales seront pour la Corse, sans surprise, là où le soleil va briller. 28 degrés attendus à Bastia, 29 à Ajaccio pour la maximale.
C'était Céline Dacosta.